Plume de Brigand, le rendez-vous livre jeunesse avec Lisa Bienvenue. Des livres, plein de livres, et puis de beaux livres et des grands livres. En ce moment, Lisa, vous nous proposez des livres assez fabuleux puisque ils sont, on peut dire, d'une taille assez quand même considérable. De très belles illustrations aussi. C'est une tendance, ça, les livres à grand format, pas forcément, non?
Non, là, non, c'est... j'ai choisi en fait des livres qui racontent des grandes histoires dans des grands formats avec des grandes, avec des illustrations que moi je trouve très belles, qui sont un petit peu léchées, qui sont relativement classiques quand même. Mais voilà, ça fait du bien aussi. C'est vrai que on est souvent en fait dans des livres aussi pour les enfants où c'est des petites phrases, des onomatopées, c'est bien, hein, moi j'adore ça aussi, hein, j'en ai raconté quelques-unes il y a pas très très longtemps. Mais voilà, je pense qu'on a aussi besoin d'histoires dans lesquelles vraiment s'installer avec des choses qui font un petit peu, enfin, qui font rêver, qui font décoller en fait, qui nous emmènent complètement ailleurs, avec des récits un peu ancestraux et qui nous amènent dans des cultures différentes aussi.
Et les auteurs qui parfois s'amusent aussi à jouer avec le grand format de ces livres et des petites choses comme Turando que vous nous avez raconté.
Oui, voilà, c'est ça, ouais. Oui, un livre, c'est vraiment un ensemble et je pense que rien ne doit être laissé, rien n'est le fait du hasard. Chez les artistes, quand ils font un livre, ils choisissent le support livre parce que c'est leur manière de raconter cette histoire-là. Donc de la couverture jusqu'à la pagination, normalement, il y a Tout est réfléchi avec l'éditeur, l'imprimeur aussi a un grand rôle à jouer dans le calage en fait des couleurs sur des images, l'infographie aussi quand il faut scanner aussi les livres, rien n'est le fruit du hasard. Et même si on le sait pas, parce que c'est un métier de faire des livres, qu'on soit auteur, écrivain, illustrateur, imprimeur, éditeur, c'est un métier. Donc il y a tout un jargon technique, comme dans toutes les professions, mais un objet bien fait, on le sent, on le voit qu'il est bien fait. Après, on n'est pas obligé d'aimer, hein, mais on peut au moins reconnaître que c'est bien fait.
Est-ce qu'on pourrait comparer ça parfois au cadre comme un tableau? Des fois des petits dessins, puis des cadres qui sont très très grands. Est-ce que ça pourrait être comparable ou...
Alors, sur celui que je vais vous raconter aujourd'hui, l'arbre de paix, certaines images, oui, ne sont pas vraiment narratives, donc c'est comme un tableau posé en fait. Il y en a un autre que je vais vous raconter dans quelques temps qui s'appelle Rose et l'automate de l'opéra, où effectivement, là, on a vraiment le texte d'un côté et puis l'image qui est fabriquée comme un... Enfin, qui fait vraiment penser à un tableau à côté. Donc, c'est... c'est ce qu'on appelle quelque part, alors avec plein de nuances, mais c'est ce qui se rapproche en fait du livre illustré où il y a l'image d'un côté, le texte de l'autre, où les deux se répondent, mais dans une relation qui est toujours un petit peu la même en fait. Le texte vient compléter l'image vient compléter le texte, mais dans une relation vraiment de complémentarité. Après voilà, je suis pas une spécialiste de l'album, il y a une dame qui s'appelle Sophie van der Linden qui est une spécialiste qui dit des choses très très intéressantes là-dessus, qui le dit beaucoup mieux que moi. Moi je schématise à bloc, hein, mais voilà, c'est un peu l'idée, là on est plus dans des choses un peu plus classique, un peu, ça repose aussi. Enfin voilà, on s'installe dans une histoire, il y a une belle image d'un côté ou de l'autre, parfois un grand tableau. C'est pas forcément une image narrative, c'est juste une image entre guillemets.
Et c'est comme ça qu'on va aborder aujourd'hui votre proposition avec un livre qui s'intitule
L'arbre de paix d'Anne Jonas et Régis Lejon. Alors je crois qu'Anne Jonas elle habite à Grenoble, à côté, enfin dans le coin. Pas Régis Lejon, mais il vient au printemps du livre de Grenoble. Au
un
mois d'avril.
Coup de pub pour
Ouais, c'est un grand monsieur. Voilà. Et donc ce livre-là est paru à la fin 2013 et au Père Castor. Donc c'est un livre récent qu'on peut encore trouver facilement sans avoir à chercher beaucoup, je pense. C'était un homme parmi d'autres hommes. Il s'appelait Yuba. Là où la vie l'avait fait naître, il n'était pas bien. Il ne s'était jamais senti bien. Dans ses premiers souvenirs, il y avait déjà le bruit plein de sang des armes qu'on affûte, et aussi les hurlements pointus des bêtes qu'on traque. Partout la méfiance, la colère et la guerre, les récits de celles qu'on avait faites, l'ivresse de celles qu'on faisait, les espoirs de celles qu'on allait faire. La guerre partout, et surtout dans le cœur des pères. Petit déjà, Yuba avait essayé de parler d'autre chose. Tout le jour, il répétait les mêmes mots.
Le temps de la vie est si court. Pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Mais on ne l'écoutait pas. Ou pire, on le faisait taire d'un cri, d'une claque ou d'un coup de trique. On lui aboya qu'ici-bas tout n'était que combat. On lui sifflait que parler de paix et de beauté abolissait le cœur des hommes. On lui rugissait qu'il devrait avoir honte d'être si différent des autres. Seules les mères pleurant leurs enfants engrangeaient ces mots au grenier de leur chagrin. Lorsqu'il fut plus haut, Yuba parla plus haut. Alors on le frappa plus fort, il devait se taire ou bien partir. Mais Yuba refusa de s'en aller. Il ne voulait pas seulement s'adresser aux pierres du chemin. Il était sûr qu'un jour, chacun comprendrait que la terre n'est pas faite pour saigner, qu'elle est douce à qui la traite doucement. S'il refusait de s'en aller, c'était aussi parce qu'il était amoureux. Et cet amour tout neuf, mais déjà plus solide qu'une montagne, lui donnait maintenant envie de chanter ce qu'il avait tant parlé.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Sa musique irrita encore plus que ses mots. Elle se mit à traîner sur les lèvres des enfants qui la fredonnaient en jouant, et aussi sur celles des femmes s'en revenant des champs. On tint conseil. Cet homme qui voulait faire taire les armes était plus dangereux qu'un lion blessé, plus malfaisant qu'une hyène en colère. Si on l'écoutait, plus personne bientôt ne voudrait aller se battre, et les ennemis arriveraient de tous les horizons connus ou inconnus. Le lendemain du conseil, alors que Yuba chantait, quelqu'un, on ne sut jamais qui, lui lança une pierre à la tête. Yuba s'affaissa dans la poussière et ne se releva pas.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Ceux qui le pleurèrent cachèrent leurs larmes, et la vie reprit son pas d'avant, d'avant les mots, d'avant les chants. Yuba fut enterré à l'écart du village, loin des arbres pour qu'il n'ait pas d'ombre, loin des hommes pour qu'on l'oublie. Mais bientôt, les gens du village s'alarmèrent à nouveau. Lorsqu'à la nuit tombée, les arbres se taisaient, on entendait fredonner une petite mélopée que chacun reconnaissait. Sans qu'on sache d'où elle venait, elle se fit plus forte chaque nuit.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
C'est alors que sur le champ abandonné où Yuba avait été enterré, quelque chose poussa. Ce fut d'abord comme une petite herbe folle, puis une tige si fragile que personne n'aurait pu penser qu'un arbre extraordinaire était en train de naître. Lorsqu'on le comprit, il était trop tard, cet arbre était déjà haut comme un homme. Selon les uns, selon les autres, l'endroit qu'il avait choisi pour croître était fort inquiétant. Alors on essaya de l'abattre, mais bien que son tronc soit aussi fin que la taille d'une jeune fille, on n'y arriva pas.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Alors on essaya de l'arracher, mais sans plus de succès. 50 buffles tirant la corde qu'on y avait attachée ne le firent pas vaciller. Enfin, on essaya de l'arroser d'eau empoisonnée, mais la terre dans laquelle il s'était planté ne laissait rien passer. Des guerriers furent donc chargés de surveiller, jour et nuit, cet arbre étrange qui tendait toujours plus haut ses branches.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Un matin, l'homme de garde poussa un hurlement en se réveillant. L'arbre était maintenant chargé de feuilles, de milliers de feuilles bruissant leurs chansons au vent de l'aurore. Tout le village s'attroupa et resta sans voix devant ce prodige. Un enfant ramassa une feuille tombée à terre. Il s'aperçut alors que ses nervures écrivaient les mêmes phrases que celles qui dansaient déjà dans sa tête.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
On alla chercher des dizaines d'échelles et l'arbre se couvrit d'une nuée d'hommes en colère, lui arrachant ses feuilles comme on plume un poulet. Au soir venu, l'arbre était nu. Au matin, il était couvert de feuilles. On arracha à nouveau toutes ses feuilles et au matin, elles avaient toutes repoussé. Cela se répéta chaque jour, si bien que les hommes ne prirent même plus la peine de descendre des branches de l'arbre. Ils finirent par tant vouloir le faire taire qu'ils en avaient même oublié ce qu'ils disaient.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Des mois plus tard, le ciel se prépara pour une de ses grandes colères. il devint plus noir que la nuit, tandis que se levait un vent à faire plier les montagnes. Ce vent souffla pendant des heures, emportant sur son passage les travaux des hommes et leurs mauvais rêves. Mais il emporta surtout les feuilles de l'arbre et leurs maux aux mille coins de la terre. Ce vent transporta aussi quelques graines qu'il déposa là où l'on avait le plus besoin d'elles.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Une fois la tempête calmée, les hommes du village de Yuba partirent sur les chemins en jurant qu'ils ne reviendraient que lorsqu'ils auraient ramassé jusqu'à la dernière des feuilles envolées. C'était une affaire d'honneur. Jamais ils ne supporteraient qu'un arbre planté chez eux aille semer partout des sornettes aussi honteuses. Bien sûr, aucun d'entre eux ne revint jamais. Et au village, comme aux mille coins de la terre, on put enfin fredonner sans crainte la chanson de Yuba.
Le temps de la vie est si court, pourquoi le trancher encore? La paix épargne demain, elle sauve la douceur des mangues et promet la confiance d'une lune pleine.
Et voilà, c'est terminé pour l'arbre de paix.
Très beau livre, belles illustrations, ouais. Lisa. Ouais. On a parfois l'impression que c'est des photographies.
Oui, oui, oui. Et puis on se demande, il y en a certaines, on a l'impression qu'il y a de la lumière à l'intérieur du livre. Dans celle-ci, on a l'impression qu'il y a de la lumière, enfin, il y a des couleurs, je sais pas si c'est... Il doit y avoir un travail à l'ordinateur, de la peinture, de la craie, je sais pas. Je sais pas, c'est un mystère. Mais voilà. C'est très différent, les histoires n'ont rien à voir, hein, mais des images de Turandot. Autant dans Turandot, il y avait un jeu avec la grandeur du livre et la petitesse des personnages. Dans tous les sens du terme, peut-être d'ailleurs, la petitesse des personnages. Et autant là, en fait, on est impressionné par certains plans, en fait, on se sent tout petit, en fait, face aux guerriers ou face à Yuba. Donc là, il y a vraiment un jeu pour être complètement dans l'histoire, voilà, sans vraiment prendre de recul, je crois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens.
Voilà, tout un jeu d'échelle.
Oui, voilà, c'est ça. Puis, enfin, c'est vrai que c'est très, très beau. On perçoit quelques inspirations de l'illustrateur, si on veut, on n'est pas obligé.
À découvrir en tout cas. Ouais. On rappelle donc L'Arbre de Paix, un livre assez récent et écrit et aussi mis en dessin, on peut dire.
Alors écrit par Anne Jonas et mis en dessin par Régis Lejon et c'est paru au Père Castor en 2013.
À bientôt Lisa, oui, on rappelle bientôt. Également l'indicatif en fait part, celui qui va suivre, mais on retrouve toutes les histoires, les chroniques sur votre site internet.
Oui, on les retrouve pas forcément immédiatement, le temps de les mettre en ligne et voilà, de faire les choses, mais on les retrouve à un moment.
À bientôt. Retrouvez Plume de Brigand sur Internet, les histoires racontées par Lisa, présentation de livres et toute l'actualité littérature jeunesse.